Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Cinquième saison de Racontez-nous votre Montpellier démarre pour de nouvelles découvertes, de nouveaux échanges. Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour. Cette fois, je vous propose de vous intéresser à une association qui réalise des vidéos, mais dans une approche particulière et une manière de faire singulière. Elle s'appelle, on verra pourquoi, les iconophages. Pour nous en parler, j'ai invité ses deux coordinateurs, Pascal Biston, vidéaste, et Sandy Alanik, travailleur social. Et à ce duo s'est ajouté un des bénévoles des iconophages, Guy Ménager, qui va apporter son propre point de vue chemin faisant. Donc, merci à chacun de venir au micro de Divergence. Deux petites questions pour commencer. Les iconophages avec un F et pas PH. Pascal Biston, petite explication de ce nom, lui aussi atypique.
Ouais, je sais pas, c'est juste une
est-ce
idée.
Est-ce que ça se décode hein? Est-ce que ça, voilà.
Non, c'est peut-être parce que ça nous ressemble de pas être complètement dans un monde normé, de vouloir réfléchir de manière indépendante et peut-être plutôt que de m'apesantir sur l'orthographe, peut-être parler plutôt du mot iconophage, les iconophages, les mangeurs d'images, parce qu'en fait, on est dans un monde où on est envahi d'images, on est submergé d'images, et en fait on subit ces images, et nous on les aime les images, et en fait pour on les aime parce que du coup on a envie d'en faire, et on a envie de faire partager cette expérience de fabriquer des images.
Très bien, on va en parler longuement au fil de l'émission. Alors, pour mieux vous connaître les uns et les autres, alors pourquoi vous êtes-vous engagé aux iconophages depuis peu de temps là, Sandy? Je poserai la même question aux autres participants à cet échange.
Pourquoi je me suis engagée aux iconophages? Déjà, c'est une association que je connais depuis très longtemps. J'ai rencontré l'association en 2013-2014. C'est une association qui déjà me plaisait dans sa manière d'accompagner des jeunes à créer des films, à imaginer, à s'exprimer. Et il se trouve qu'en tant que travailleuse sociale, j'accompagne donc des personnes en grande situation de précarité. Et je me sentais finalement frustrée de l'accompagnement qu'on pouvait proposer dans le travail social parce qu'on était très limité par les moyens. Et finalement, aux iconophages, on a une façon d'accompagner les personnes en apprenant à mieux les connaître, en apprenant peut-être finalement à mieux comprendre leurs besoins et en faisant une forme de médiation, de passerelle avec les professionnels qui me permet finalement peut-être de me sentir plus à ma place. Et voilà. Et donc oui, pour moi, c'est le travail, les objectifs, la façon dont l'association est importante.
On va les regarder de plus près. Et vous, Pascal, là, ça date pas d'hier, on l'a compris. Pourquoi cet engagement? Parce que passion pour la vidéo peut-être, mais elle pouvait se manifester ailleurs et sous d'autres formes.
Oui, et ben, en fait, moi, j'ai commencé au début, je faisais beaucoup de la photo en autodidacte. Et un jour, un ami metteur en scène avec qui je travaillais en photo, avec qui on travaillait sur la photographie, il m'a dit « Vas-y, prends une caméra et achète un logiciel de montage. » C'était en 2000. Et depuis, en fait, je me suis dit « Mais en fait, c'est vachement bien l'outil la vidéo. » D'abord, ça rentre dans un format, une fois que le film est fait, au mieux, à l'époque, c'était des VHS. Maintenant, c'est juste sur un support numérique. Alors qu'avant, des expos photos, ça prenait de la place, ça envahissait les chambres, les bureaux. Donc du coup, en fait, progressivement, j'ai rencontré Christelle Lescrénier, qui travaillait à Radio Clapaz, d'ailleurs, et qui a commencé à mettre à interviewer les gens que je photographiais. Et on s'est dit, mais vas-y, viens, on fait des films ensemble, toi le son et moi la vidéo. Voilà, ça, l'histoire des iconophages a commencé comme ça.
A commencé comme ça. Très bien. Alors, et vous, là, Guy, là, bénévole, qu'est-ce qui vous a conduit à donner du temps et de la langue, j'allais dire, aux iconophages? Pourquoi?
Oui, alors moi, si je suis rentré aux iconophages, c'est pour avoir une raison de plus de vivre et de servir à quelque chose. Parce que moi, je pense personnellement que si on ne vit que pour soi, sans penser aux autres, c'est pas la peine de vivre.
Très bien, mais voilà en tout cas qui est clair. Alors, on poursuit. Donc, Paul Biston, les iconophages, vous l'avez évoqué, ont été créés il y a 25 ans, un vrai parcours. Quelle était l'idée originelle et aujourd'hui, cette raison d'être des iconophages pendant 2 décennies et demie, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est la même?
J'ai toujours trouvé la parole des gens que je photographiais ou que je filmais très très forte. Et en fait, j'ai
la valeur de l'authentique, quoi, je dis peut-être, ouais, ou du...
C'est-à-dire que, en fait, alors, au début, je ne travaillais pas forcément tout le temps sur des personnes qui étaient pauvres. Mais en fait, en travaillant avec des personnes précaires, c'est vraiment des personnes qui, souvent, on va malheureusement peut-être un peu généraliser, mais en tout cas, souvent, sont plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Et du coup, ces paroles-là, elles sont hyper puissantes du moment qu'on les restitue brutes. Brutes, j'entends, bah voilà, on laisse le temps, on ne coupe pas toutes les 5 secondes une parole pour lui faire dire le contraire de ce qu'elle veut dire. Donc c'est, voilà, c'est respecter aussi ses paroles, et ces paroles-là, quasiment dans tous nos premiers films, il n'y a que des paroles brutes, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de...
Il n'y a pas les montages sophistiqués et peut-être tarabiscotés ou manipulateurs auxquels on peut assister ailleurs, c'est peut-être ça tout, cette exigence.
C'est ça, et c'est peut-être la... En fait, ce qui se passe aussi pour pas trahir ces gens-là, qui n'ont pas forcément confiance, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les médias, c'est de, en fait, leur proposer de travailler de manière horizontale et de co-construire ensemble ces films.
Voilà. Alors, pour continuer à décrire la situation, vous êtes installé dans un tiers-lieu, quoi, une coopérative culturelle qui s'appelle La Tendresse, tout un programme d'ailleurs. Un petit mot là-dessus, peut-être Sandy, ce qu'est la tendresse, ce qu'on y fait, ce que vous y partagez avec d'autres associations.
Oui, alors la tendresse, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu culturel, c'est-à-dire que en fait, c'est une coopérative, voilà, de personnes avec des structures, associations ou personnes entrepreneurs, on va dire, qui a ses bureaux, mais on a aussi des espaces qui permettent en fait de pouvoir accueillir du public, organiser des projections, des événements. Et ce qui est très intéressant aussi dans cet espace, c'est qu'il se situe derrière le quartier Sabine, à côté donc de l'avenue de Toulouse. Et en fait, il y a eu tout un projet d'aménagement. Tout d'abord, la rue de la Tendresse et maintenant le passage de la Tendresse, qui en fait a permis d'aménager le devant pour que les habitants du quartier aient un endroit sécurisé, en fait, pour traverser sans avoir à passer par l'avenue de Toulouse.
Ah, je vois. D'accord. Et des piétons, quoi.
De piétons. Et donc, il y a non seulement le fait que pour nous, en tant que structure, c'est très riche d'avoir des collègues de différents horizons, parce que on échange, et aussi le fait que, voilà, il y ait cet état d'esprit que le lieu, il est dans un quartier et il aide le quartier, les habitants du quartier, ça rejoint nos valeurs, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on y est bien et que finalement c'est un endroit qui nous correspond et qui rejoint nos valeurs. D'ailleurs,
alors, oui.
D'ailleurs, j'en profite.
Profitez.
On va fêter les 10 ans de la tendresse le 26 septembre, et avec des événements pour justement inviter le quartier et autres à découvrir le passage de la tendresse. N'oubliez pas.
Je précise que c'est 80 impasses floues, c'est une petite voie, hein, pas très longue, qui donne sur l'avenue de Toulouse, et donc on voit tout à fait pas loin du grand thème, comment on l'appelle. Alors, je reviens vers vous, là, Guy. Ces coups de main que vous donnez à Iconophages, pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe, quels sont les appuis, les aides, la part que vous prenez, bénévole parmi bien d'autres, aux activités et à la production de vidéos?
Alors moi, personnellement, je ne fais pas d'informatique du tout. Je n'ai pas de véhicule. Par contre, je suis aux iconopages, c'est pour donner des idées. Et de temps en temps, servir de médiateur pour apaiser certains conflits.
Ah oui, quand il y a des difficultés dans une situation par rapport à des personnes dans un quartier.
Difficultés internes, on va dire.
D'accord.
Voilà.
Alors, interne.
Et en participant au film, je pense que ça peut aider à rétablir la vérité sur ce qui est vraiment la vie d'un précaire, hein, qu'il soit à la rue ou qu'il aille à logement. Parce que vis-à-vis des médias, pour eux, les précaires, c'est des gens qui profitent de la situation, qui sont sales, voilà quoi. C'est carrément des idées fausses. Ils ne se donnent même pas la peine de savoir la vérité. Et grâce au film, ça peut peut-être les aider à comprendre un peu mieux les précaires.
Alors, cette recherche hein, de transcrire la réalité, de donner tout son sens, hein, toute son authenticité, c'est le fait d'un certain nombre de personnes, des hommes et des femmes, alors des salariés, dont vous-même, là, Sandy, et Pascal, d'autres, des bénévoles, et quels sont les autres, je dirais, participants qui, de près ou de loin, contribuent à l'activité et à la pérennité des iconophages, Pascal.
Bah, du coup, effectivement, nous, on est d'abord une équipe de deux salariés à 70% de temps de travail. Après, on est entouré effectivement par un conseil d'administration. On se réunit à peu près, on va se voir un peu demain soir avec un peu un conseil d'administration élargi, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment de fabriquer ensemble et de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on a envie de faire pour l'année prochaine. Par exemple, là, il y a bientôt les appels à projets pour 2027. Donc quel axe, quelle thématique on a envie de traiter, avec qui, comment. Donc voilà, donc il y a à la fois le CA, à la fois, du coup, à peu près outils vidéo participatifs, qui est notre principale action avec les adultes pour faire des films qui drainent environ 80 participants par an.
Ah oui.
Qui après, souvent, il reste, il y a une partie, on va dire, une dizaine ou une quinzaine de personnes par an qui disent « Ah, mais c'est trop bien et j'ai envie de poursuivre aux iconophages, de voir autre chose, par exemple, de faire venir mes enfants sur d'autres actions que nous menons ». Et puis après, il y a aussi, j'oublie pas, c'est finalement, en fait, si notre action est assez connue et reconnue, c'est parce qu'en fait, il y a tout un travail de partenaires sur les quartiers politiques de la ville, parce qu'on est aussi très présents sur ces quartiers-là. Et aussi, Guy l'a dit, sur des problématiques de grande précarité. Voilà.
Donc, des adhérents à l'association, bien sûr.
Une centaine.
Et, voilà, et des sympathisants, une espèce de troisième cercle autour de vous. Alors, précision politique de la ville, les auditeurs, ce n'est pas la politique de la ville de Montpellier, c'est un dispositif de l'État, du gouvernement ancien, qui a produit quelques effets, mais qui est aussi discuté, qui intervient en apportant des financements pour les quartiers dits en difficulté. Quoi. Donc, c'est ça, la politique de la ville. Alors, depuis quelques temps, donc, j'avais en tête de vous inviter. Je l'ai fait quand j'ai appris que vous avez de sérieuses difficultés financières, bon, avec un mail au mois de juin dernier. Alors, pour qu'on s'y retrouve, sans rentrer dans le détail du bilan ou de la comptabilité, quelles sont vos ressources en grande masse? Et puis, bon, bien sûr, question qui suit, qu'est-ce qui s'est-il passé ces dernières années qui, donc, porte atteinte, je dirais, à votre solidité financière, en tout cas, au devenir des iconophages. Alors, quels sont vos financeurs, en gros, en grande masse, qu'on comprenne bien? Vous avez fait allusion aux appels à projets. Bon, ça, c'est des formules des institutions pour trouver réponse à des besoins, avec des prestataires dont qui ont la qualification. Alors, voilà. Donc, grande masse et évolution notable ces dernières années qui ont suscité l'inquiétude que nous relayons aujourd'hui.
Alors du coup, nous, on est vraiment une petite structure, hein, puisque deux salariés, c'est une petite structure. On a été jusqu'à trois salariés. Et en fait, effectivement, vous l'indiquez, les temps ne sont pas très propices à la culture et aux associations et au social. Et du coup, on a effectivement subi depuis 2022, on va dire depuis l'après-Covid, des baisses régulière, petit à petit, des différentes collectivités et collectivités territoriales ou étatiques.
C'est ça.
Donc, par exemple, on a perdu le poste adulte relais qui finançait à 70% le salaire de la personne à temps plein. Là, cette année, on vient de perdre 50% de nos subventions de l'État et de la politique de la ville. Voilà, donc en fait, régulièrement, là je vous ai cité les deux grosses baisses, mais régulièrement, on a des petites baisses. On a appris aujourd'hui que peut-être on n'aurait pas toute la subvention du département l'année prochaine.
Alors qu'elle a déjà baissé l'an dernier.
Oui, alors qu'elle avait déjà baissé.
En 2024, je veux dire.
L'an dernier, elle n'a pas baissé, elle avait baissé l'année d'avant.
C'est ça.
Mais voilà. Donc effectivement, c'est petit à petit, en fait, et Sandy le disait, on mange ensemble avec différentes associations et toutes ont fait ce constat de la baisse et des subventions qui permettent en fait d'amener la culture dans toute la ville, dans tout le département, dans toute la région et qui finalement se dit mais jusqu'où on va continuer à accepter ces baisses-là et à permettre de continuer à faire des actions et des films ou des spectacles de qualité, quoi.
Donc.
Oui, et si je peux me permettre, y a les baisses et il y a aussi cette question de l'instabilité, c'est-à-dire que, par exemple, on a eu des conventions pluriannuelles, on sait que là, en 2027, il n'y aura pas de convention pluriannuelle, ce sera annuel.
De coup par coup qui rend difficile de programmer, de monter les projets.
C'est ça, et quand on a des réponses qui arrivent parfois en milieu d'année, alors qu'on a déjà démarré l'année sans savoir si on allait avoir ou pas, c'est vrai qu'en termes d'organisation, ça crée une instabilité, ça crée du travail en plus, parce que si effectivement on les a, ça veut dire qu'on doit redéclencher...
Le montage des projets, des dossiers, etc.
Quoi. Voilà, donc il y a la baisse, mais il y a aussi de toute façon cette question de l'an prochain, et comment est-ce que je peux prévoir, comment je peux me projeter, est-ce que je peux me permettre d'employer quelqu'un alors que je ne sais pas si dans 6 mois, voilà. C'est tout ça aussi qui est compliqué, je trouve, en ce moment.
Pascal ?
Et il y a aussi cette... peut-être ce qui est le plus dangereux, c'est aussi... Tout ça, c'est derrière, il y a l'enjeu de l'extrême droite qui dit, mais en fait, la culture n'a pas d'intérêt. En fait, pourquoi donner... Enfin, de l'extrême droite, mais même de la droite, et on va dire même du centre, de dire, mais quel intérêt de financer la culture ? Et voilà, et quelque part, nous, dans nos actions et dans tout ce qu'on vit, on nous dit oh, mais c'est trop bien ce que vous arrivez à remobiliser des personnes vers l'emploi à travers, en leur redonnant confiance, en leur redonnant de l'autonomie, en leur redonnant goût à la vie, ou en leur redonnant une place dans la cité, quand on parle des habitants des quartiers politiques de la ville. Et du coup, c'est vraiment... nous, on a vraiment l'impression de faire un travail utile. Qui est à la fois à tresser des ponts entre la culture et le social.
Alors, vous venez de l'évoquer, le travail que vous faites est reconnu, est apprécié par les pouvoirs publics, les services de l'État, les collectivités locales, notamment le conseil départemental. Vous l'avez un peu dit, mais c'est intéressant de le dire, parce que ce n'est pas vous qui faites votre promotion, mais c'est des gens qui sont un peu des intermédiaires entre ces personnes précaires et vous-même. Là. Qu'est-ce qui explique alors la bonne image, l'image de la notoriété positive, qui est celle des iconophages, après ce travail quand même de longue haleine, depuis, je le répète, depuis 25 ans.
Je pense qu'il y a une réalité, c'est que ça fait 20 ans qu'on est sur le territoire. Donc une association qui existe depuis aussi longtemps,
c'est pas si fréquent,
qui est présente déjà, montre qu'il y a une raison d'être. En tout cas, il y a des participants, etc. Et c'est vrai que nous, on fait donc un comité de pilotage où on invite notamment les partenaires institutionnels chaque année un peu... en milieu d'année pour faire un peu le point avec eux et on leur montre et eux, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils nous disent, c'est que effectivement on est un des rares comités de pilotage où on a des participants qui viennent, c'est-à-dire que nous on travaille avec des personnes pour effectivement faire des films qui expriment. Et oui, ils sont là, y compris quand on fait un comité de pilotage. Donc je pense que ça prouve déjà que oui, on travaille de façon participative. C'est vrai, c'est pas juste.
On va voir de plus près tout à l'heure.
Mais il y a différentes choses comme ça, oui. Qui...
Alors ça, il y a des inquiétudes pour l'avenir. Donc vous avez lancé donc un appel à la mobilisation et à la solidarité en juin dernier pour assurer la pérennité des iconophages. Cet appel, comment ça se traduit? Quels sont les outils, les méthodes là, de mise en mouvement de ceux qui peuvent vous apporter leur soutien? Alors, des rencontres, des projections de débat notamment, et puis cagnotte, donc c'est le moment de donner ces précisions, y compris l'aspect pratique pour ceux des auditeurs et auditrices qui souhaiteraient vous donner un coup de main.
En fait, bon, déjà, il y a les événements qui arrivent. Est-ce que j'en
oui,
parle
oui,
là? Oui,
dites un mot parce que c'est important, oui.
Du coup, par exemple, c'est vrai qu'on n'est pas forcément très visible tout le temps parce qu'on fait beaucoup de formes de projections rencontres pour des étudiants qui se destinent au travail social, pour des lycéens sur la question de la grande précarité. Pour, par exemple, le personnel des médiathèques prochainement, là, le 15 octobre. Et du coup, il va y avoir une grande projection où vous pouvez venir nombreux. C'est à l'auditorium de la médiathèque Émile Zola.
Donc c'est Antigone, hein, pour ceux qui ont oublié où elle était. Donc,
voilà, tout à fait. Où il y aura le film auquel Guy a participé, Des âmes et des ombres, qui compte le parcours de 7 personnes qui ont connu la rue à Montpellier. Voilà, un film de 45 minutes.
Et oui, c'est la réalité dans la réalité, mais avec, voilà. Et donc avec pour appui donc des travailleurs sociaux, et donc ce travail de sensibilisation bon, du personnel des médiathèques, c'est ça, hein, donc qui est à mesure de relier à partir de ce film. Donc il y a d'autres rencontres.
Et juste par exemple pour vous dire, c'est eux qui sont venus nous chercher parce qu'ils rencontrent des problématiques face aux personnes de la rue vont se réfugier pour avoir chaud ou
dans
pour passer du temps ou pour lire des magazines, etc., ou pour regarder des films dans les médiathèques. Et comment on fait? Est-ce qu'on accepte les chiens? Est-ce qu'on n'accepte pas les chiens? Est-ce qu'on accepte des personnes qui sont pas très bons par moment? Est-ce qu'on leur propose des douches? Comment on les accueille? Comment on les accueille
bien? C'est parti de l'identification de ce besoin et ça a donné lieu donc à cette projection, voilà. À débat du 15 octobre à la médiathèque.
Et en fait, elle reflète bien notre travail, c'est-à-dire qu'il y a une partie le matin qui est privée pour les salariés des médiathèques de l'agglomération de Montpellier, et une partie qui est publique, et du coup c'est deux films différents. Il y en a un qui est beaucoup plus axé sur le travail social et comment on accompagne les personnes en grande précarité, et l'autre il est plus à un film de vulgarisation un peu sur ce que vivent et ce que ressentent les personnes à la rue.
À la rue, d'accord, très bien.
Guy, tu veux dire autre chose?
Ce que je voulais te dire tout à l'heure
dites-le à l'antenne si c'est d'intérêt général.
Et moi qui suis moi qui suis depuis 25 ans à Télé-Garmont, je dois remercier les iconophages parce que Pascal, en plus de ça, participe à toutes les réunions d'organisation du 17 octobre, la journée mondiale contre
la cancer. J'avais fait l'émission l'an dernier avec ATD Carbone, oui, donc d'accord.
Donc, merci.
Et donc effectivement, on y mène un atelier dans cette journée du 17 octobre depuis quelque temps, et cette année encore, on va proposer quelque chose.
Alors il y a également une cagnotte qui a été ouverte, donc c'est le moment d'en dire un mot, donc sous l'intitulé Hello Asso, bon, c'est connu pour ce genre de démarche, hein, Hello Asso. Helloasso.lesiconophages, rappeler.
Oui, de toute façon, si vous tapez Helloasso et les iconophages avec un Z et un F, vous pourrez adhérer, faire des dons, etc. Et après, peut-être nous suivre aussi sur. On a un site internet qui est à peu près à jour, un Facebook aussi qui est à jour.
D'accord, bon, ça, la cagnotte a démarré, bon, les périodes n'étaient peut-être pas des plus favorables. Au plus grand de l'été, de toute façon, elle est toujours là, à disposition de ceux qui voulaient donner un petit quelque chose.
Oui, après, comme le disait Pascal, voilà, il y a la médiathèque qui est intéressée pour qu'on projette un film, mais on fait aussi de la prestation, et donc si des structures qui ont de l'argent souhaitent faire appel à une structure compétente dans toute élaboration d'outils vidéo, etc., ils peuvent aussi faire appel à nous et on sera ravis de monter un projet et un devis spécifique pour eux.
Voilà. Ça, c'est des prestations. J'ai tel besoin, une association, une structure, une entreprise peut-être. Et il y a aussi les formations que vous assurez sous diverses formes, hein. En direction des jeunes notamment, ça c'est une vocation, une activité qui date pas d'hier, hein, mais qui se perpétue donc.
Oui, des jeunes, des étudiants.
On a un prochain stage, on a deux stages jeunes à l'automne.
Ouais.
Un qui est plutôt destiné aux enfants du quartier de la Mosson, puisqu'il est sur Imaginer l'espace public à l'entrée de la Mosson.
Ah oui, je vois, qui est en cours.
Donc là, il se fait en partenariat avec le Passe Muraille, la ville de Montpellier et je pense le Collège Rimbaud.
Oui, parce qu'il y a un projet de rénovation des espaces publics, là, c'est ça.
C'est ça.
Tout à fait.
Et en deuxième stage, c'est à Aiglong, c'est ça ?
Oui, c'est un stage qu'on est en train d'élaborer là, à Aiglong, et donc aussi avec notamment le soutien de notre représentante ville, justement, quartier prioritaire, Bien Vivre à Aiglong, qui est l'association vraiment présente sur le territoire. On a contacté aussi la Maison pour tous, et là effectivement c'est l'idée d'aller à la rencontre des jeunes et de réfléchir sur leur environnement. Donc
c'est plus grand quoi, c'est des collégiens ou des lycéens?
Nous on aime bien faire du 9-16 ans, et ça marche très bien. Il y a plus un côté finalement dans ces stages là un peu fraternel que dans certains stages du même âge où il peut y avoir le côté compétition. Donc non, souvent c'est très agréable et puis c'est riche parce que du coup il y a les points de vue des petits, des grands, de l'entraide, et donc voilà, on est en train de préparer ça pour l'automne.
Pascal.
Et d'ailleurs à chaque fois qu'on fait un stage ou avec des familles ou avec des jeunes ou même avec des adultes, souvent on va inviter un professionnel. Donc là par exemple sur ces deux stages, il y a un architecte paysager, Marc-Henri, qui d'ailleurs avait ses bureaux ou a ses bureaux à la Tendresse, et qui va accompagner sur le volet pour questionner les jeunes sur leur environnement, alors que nous, on va leur apporter nos compétences audiovisuelles.
Très bien. Alors, on s'achemine, oui.
Et en plus, sur le stage d'automne, pour quand même le dire, Pascal, c'est qu'à chaque fois, vous organisez un repas pour tout le monde.
On organise une restitution, effectivement, pour inviter parents, familles, voisins, au moins goûter ou à période dînatoire, bien sûr. On met en avant les jeunes. Donc c'est oui. Puis on invite nos adhérents, on invite tout le monde, hein, nous.
On les fait cuisiner,
on les exploite.
Toujours participation, pas seulement faire la vaisselle.
Non, on exploite toutes leurs compétences de façon très bienveillante.
Oh, ça va, on n'est pas trop exploité quand même.
D'ailleurs, en termes de compétences, par exemple dans le film Entre ombre et lumière sur le travail social, les participants ont décidé, on était tous autour d'une table exactement comme ici à l'antenne, à réfléchir sur quel titre on avait envie de donner par exemple à ce film. Et c'est d'ailleurs, je pense que si on peut le mettre à l'antenne, c'est ce qu'on va écouter maintenant.
Eh ben, mettons-le à l'antenne.
Bon, comme on est tous réunis ici aujourd'hui, on pourrait, c'est l'occasion de trouver un titre à ce film, non ?
Bah oui.
Moi j'ai trouvé Des âmes perdues parce que ça ressemble au premier film Des âmes et des hommes, quoi, voilà. Et je suis dans le film.
C'est perdu, ça fait un peu négatif quand même, ça fait très pessimiste.
Grave.
Moi j'avais pensé à Les Kafkaïens.
Moi j'ai peur que ce soit trop précis, ça renvoie vraiment à une institution. J'ai peur que les gens soient. Et des attentes un peu trop spécifiques.
Et des missions, parce que le travailleur social a un rôle important,
Mais c'est un travail difficile qui parfois amène à démissionner, quoi. Ou à arrêter un accompagnement.
Oui, je trouve qu'à un moment donné de notre carrière, on est tous amenés à s'essouffler et à se poser la question de faire notre métier ou de le faire différemment avec les missions qui nous sont confiées parce qu'on n'arrive pas à les faire, effectivement. Mais c'est un peu négatif, peut-être. Il n'y a pas que ça.
Ah oui, c'est quand même très négatif. On n'a pas autre chose.
AS, les futurs Valkyries.
Oui, moi, je propose Offrant.
C'est au front comme à la guerre, ça fait en première ligne, c'est ça?
Oui.
Sinon, j'aime bien reprendre les choses qui sont dites dans le film et quand même, pas de baguette magique, c'est pas mal pour montrer que le travail social, eh ben, ils sont obligés de faire avec ce qu'ils peuvent et qu'ils n'ont pas forcément la solution.
Ouais, c'est vrai qu'effectivement c'est intéressant le pas de baguette magique parce que ça a été déjà dit dans le film et que c'est un mot qu'on peut utiliser en tant que travailleur social. Après, je trouve que commencer un titre par pas, il y a quand même un côté négatif qui est un peu dur, quoi. Et bon, ça manque un peu de positif quand même de commencer par pas. On peut peut-être garder l'ombre parce que c'est les coulisses. Enfin, qu'est-ce qu'on fait finalement un peu caché? Et du coup, on peut peut-être utiliser le mot lumière, dans l'ombre et la lumière.
Mmh. Ouais.
Parce que voilà, ça montre le côté positif et l'issue positive. Et que voilà, il n'y a pas que de l'ombre, il y a aussi de la lumière dans notre travail et dans l'accompagnement avec les gens. Ou raccourcir un peu et dire entre ombre et lumière, regard sur le travail social.
Ouais.
C'est bien de rajouter ce sous-titre.
Alors, on s'achemine vers la fin de l'émission. J'avais prévu d'autres questions, mais je crois que l'essentiel a été dit. Ce travail fin d'écoute, de forme de participation active, réelle, dans l'élaboration des vidéos et dans la transcription de la vérité, de la réalité, comme Guy nous l'a dit.
Exactement.
Donc, chers auditeurs, je vois ainsi où c'était. Soutenez les iconophages, je le rappelle, accès en ligne à la cagnotte loso.lesiconophages. Les deux prochains rendez-vous, le 26 septembre, à partir de 17h, les 10 ans de la tendresse, on a vu ce que c'était, donc, l'inauguration de la cour de la tendresse, et un programme artistique qui suit, c'est donc au 80 Pense Flouche. Et enfin, le rendez-vous le 15 octobre à la médiathèque Émile Zola, dont nous venons de parler. Eh bien, Sandy, Alanique, Pascal Biston et Guy Ménager, merci à vous, et à une prochaine fois. À Divergence ou ailleurs.
Merci,
merci à vous de nous avoir reçus.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Reine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Reine pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.